Bon, alors, pour reprendre le fil de notre histoire, ce que nous allons aborder ce soir, le troisième jour du Triduum. Alors, on a vu le premier jour, celui où le Christ souffre, du coucher du soleil de jeudi soir au coucher du soleil de vendredi soir, depuis la messe In Cena Domini, la scène du Seigneur, jusqu'à l'ensevelissement. Là, nous sommes en plein deuxième jour, le jour où le Christ est enseveli. Il ne se passe rien jusqu'au coucher du soleil de ce soir. Grand silence sur la terre. Ce n'est pas la même chose de l'autre côté, mais nous, nous n'y sommes pas. Donc, il y a ce jour vide, au cœur de l'année liturgique. Et ce soir, au coucher du soleil, nous allons rentrer dans le troisième jour du Triduum, celui où on entre dans le mystère de la résurrection. Et vous allez voir que ce qu'on célèbre, c'est un peu drôle et un peu bizarre. Vous allez comprendre. Donc, dès l'instant de sa mort sur la croix, le Christ est victorieux. J'espère que ça, vous l'avez compris depuis que je vous parle. Hein ? C'est à l'instant même où il meurt qu'il est victorieux, que la mort est morte, que l'acte d'accusation de nos péchés est définitivement détruit, et que l'univers est recréé. Il livra l'esprit. Donc en fait, tout est accompli. La mort de Jésus est vraiment la mort de la mort. Bon, vous savez qu'on va, on chante dans la liturgie byzantine, alors les fameux tropaires qui rythment les jours. Bon, le tropaire de la résurrection qui va accompagner la liturgie byzantine, le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, la mort est morte. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. C'est vraiment par sa mort. Mais j'allais dire, pour l'instant, il n'y a que lui qui le sait. Soyons clairs. Bon, aujourd'hui, alors ça c'est le tropaire du samedi saint qui est étonnant, par ton corps au tombeau, par ton âme aux enfers, par ta divinité à la droite du Père, tu as tout rempli. On est en face d'un mystère étonnant. La mort a comme fait, comme pour nous, elle déchire l'âme du corps. Et Jésus l'a vécu dans son humanité, ce mystère terrible. Mais au lieu d'être la destruction et le néant, tout d'un coup, il prend possession de tout. Il n'y a plus de lieu où le Christ n'est pas. Même dans l'enfer. Il n'y a plus de lieu où le Christ... Il remplit tout littéralement et il est déjà en train de tout rassembler. Donc, par son âme, il est descendu aux enfers et il vit le mystère de sa victoire. La résurrection rend réelle cette victoire pour toute son humanité qui est semblable à la nôtre. Et notre foi ne repose plus sur des promesses. Tous ces gens de l'Ancien Testament qu'on nous a vus ce matin en train de se faire relever, ils n'avaient vécu que de promesses. Alors, certes, ils avaient foi dans les promesses du Seigneur. Et la dernière, hein, c'est la Vierge Marie. La promesse faite à notre père Abraham. Oui. Et Dieu accomplit ses promesses. Mais ce sont des promesses. Donc, notre foi, nous, ne repose plus sur des promesses. Elle est un don. Alors, j'emploie le mot parfait, mais au sens latin du terme, accompli. Hein, le parfait, ce qui a atteint son accomplissement. C'est un don parfait, effectif, accompli. Moi, je ne vis plus de promesses. Je vis dans la réalité. Les promesses sont accomplies. Donc, avec sa descente aux enfers, la charité de Dieu, l'amour de Dieu, est descendue jusqu'au bout de notre égarement à nous. Bon. Vous pourrez vous perdre, tant et plus, et autant que vous voudrez, je suis désolé, vous retrouverez toujours le Christ. Il y est. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Lui y est allé, jusqu'à l'extrême. Ce processus de descente, quelque part, il nous renvoie, bon, ben c'est le mercredi des cendres. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bon, qui rappelait justement le jugement de Dieu porté sur Adam après la transgression. Donc moi, pendant mon carême, si j'ai fait un bon carême, je dois avoir repris conscience un bon carême, c'est jusqu'à quel point d'égarement je suis arrivé. Nous, on voit plutôt le carême comme un temps de perfection et d'exploit ascétique, en disant « je suis bien ». C'est pas pour rien qu'on vous met au troisième samedi de carême la fameuse parabole du pharisien et du publicain. « Je te rends grâce, Seigneur ». Parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, là, et puis comme le publicain qui est là-bas derrière, adultère, corrompu, rapace, machin, etc. Moi, je jeûne deux fois par semaine, je paye la dîme de tout ce que je gagne. Comme motif d'action de grâce, c'est quand même assez génial. Hein. Vous imaginez le prêtre entamant une préface à la messe dans ce genre-là. Bon, ben oui, vous avez compris. Le publicain, lui, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, se frapper la poitrine en disant « Seigneur, sois propice au pécheur que je suis », et c'est lui qui retourna justifié. Aujourd'hui, c'est le samedi saint, Jésus est au tombeau, et si j'ai fait un vrai carême, ben, je me suis rendu compte que je n'ai rien d'autre à offrir à Dieu que mon cœur de pierre comme tombeau. Lui peut en faire la chambre nuptiale de sa résurrection, mais certainement pas moi. Donc aujourd'hui, on est allé jusqu'au bout, on est descendu. Avec la résurrection du Christ, commence la remontée de l'humanité vers Dieu, accomplie en Christ et qui va s'accomplir dans les membres. 40 jours avant Pâques, mercredi des cendres. 40 jours après Pâques, jeudi de l'Ascension. Vous voyez la réponse. Désormais, je suis poussière et je ne retournerai pas à la poussière. J'entrerai dans le royaume avec mon Seigneur. Mais avec lui, parce que lui a vécu la descente et le relèvement. Moi tout seul, à part être étalé par terre, je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Bon, c'est très beau de voir. Et alors aujourd'hui, bon, samedi saint, nous sommes le 40e jour du carême, le dernier, l'ultime, le point de descente depuis le mercredi des cendres. Le jeudi d'Ascension, 40 jours après, nous serons au contraire à franchir les portes du royaume des cieux et à entrer dans l'éternité. Bon. Il a fallu 40 jours, c'est le temps de la génération, le temps pour laisser un monde mort, et 40 jours, le temps de faire l'expérience d'une vie nouvelle et de ce que c'est que de vivre dans la réalité du royaume, de passer d'un état à un autre. Alors la croix a accompli toute justice. Elle a détruit l'empire de Satan, celui qui s'empare des vies humaines quand elles viennent au monde alors qu'il n'y a aucun droit. Et elle a opéré notre réconciliation avec Dieu. Il a opéré la réconciliation par le sang de sa croix. Sur la croix, il a déchiré l'acte d'accusation de nos péchés. Et nos frères orientaux disent qu'en fait, la croix est cachée dans les ailes de la colombe. Au moment même où le Christ meurt, où il pourrait être le plus séparé du Père, et qu'il est en fait le plus en communion, ça qui est... l'Esprit récupère en lui ce mystère de réconciliation. Et il a donné l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Et moi, par le mystère que l'Église m'a confié, je vous pardonne toutes vos fautes. Ça, c'est extraordinaire quand on peut dire ces paroles. Chaque fois qu'un prêtre confesse et qu'il donne l'absolution, c'est pas lui qui fait, il sait très bien qui fait. C'est incroyable. C'est ce qui s'est accompli sur la croix. Et l'Esprit a récupéré cette chose. Et par la médiation des prêtres, tout homme peut bénéficier du mystère. Alors, dans la résurrection, nous voyons opérer cette réconciliation. Nous la voyons parfaitement accomplie. L'humanité de Jésus nous apparaît totalement rendu participant de la nature divine, illuminé, vivifié. Bon, alors il ne faut pas que j'effleure mon sujet parce que nous ne sommes pas encore aux manifestations du ressuscité. Ça, c'est les évangiles de la semaine de l'octave de Pâques, qui sont tous plus prodigieux les uns que les autres. Mais on se rend bien compte que ce Jésus est le même et en même temps, son humanité qui est réelle, on le touche, on le voit, on l'entend, il mange avec vous. Et en même temps, il passe à travers les portes closes. Il est là et tout d'un coup, il n'est plus là. C'est le même et en même temps, ce n'est pas le même. On n'arrive pas à le reconnaître. Et pourtant, c'est lui. On le prend pour le jardinier, on le prend pour un pèlerin, on le prend pour quelqu'un. Et pourtant, c'est lui. Bon. Alors, j'allais dire, dans l'humanité de Jésus, le péché n'a jamais eu de place. Ça, on le sait. Il vient, le prince de ce monde, et en moi, il n'a rien. Ça, la chose est claire. Par contre, les conséquences du péché ont pesé, et de la manière la plus terrible que nous savons, sur l'humanité du Christ. Là encore, notre épiphane ce matin. Regarde les crachats sur mes joues, regarde les soufflets, regarde les traces de la flagellation, regarde les trous dans mes mains. Oui, les conséquences du péché ont pesé sur l'humanité du Christ et l'ont marqué. D'ailleurs, d'une manière telle que ça ne s'effacera jamais. Maintenant, ah oui, c'en est fini. L'humanité du Christ ressuscité, elle est tout entière vivifiée, illuminée de la vie et de la lumière divine de l'Esprit-Saint. Alors, les trous des clous sont toujours là, mais ce qui en sort, ce n'est plus le sang. Deux rayons sont cachés dans ses mains, là est cachée sa force, dit le cantique d'Habacuc. Et j'aime beaucoup la vision de Marguerite Marie, c'est la petite visitandine de Paray-le-Monial au XVIIe siècle, avec sa vision du Sacré-Cœur, alors qui n'a rien à voir avec les Sacré-Cœurs en plâtre qu'on nous a flanqués dans nos églises. Quand elle voit ce Christ avec ses cinq soleils rayonnant à la place des pieds, elle avait tout compris. Elle avait tout compris. Ce n'était pas du sanguinolent gnangnan. Ce qu'elle voyait, c'était le rayonnement de la charité divine. Dans l'humanité du Christ, mort et ressuscité, qui a enduré pour nous et qui rayonne de cette splendeur. C'est une très très belle image de ce Christ aux cinq soleils à la place de ses plaies. Alors lui, il est ressuscité, oui d'accord. Lui, son humanité est totalement divinisée, ça c'est normal. Le problème, c'est nous. Et comment ça va passer de lui à nous? Je suis désolé, le Christ n'est pas ressuscité pour lui. Il n'en avait rien à faire, excusez-moi. Lui, le Fils de Dieu, il n'en avait rien à faire. Bon, s'il est mort et ressuscité, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Et toute la question, c'est comment est-ce que ça va passer de lui, sa personne à lui, à nous. Et en fait, tout ce que nous allons célébrer cette nuit, c'est comment ça passe de lui à nous. Je suis désolé, on ne célèbre pas la résurrection du Christ. Nous célébrons notre résurrection. La sienne, on ne peut pas la célébrer. Et vous l'entendrez en toutes lettres, oui, en tout son. Nuit qui seule a pu connaître l'instant. Personne n'en sait rien, la résurrection du Christ. Personne ne peut la décrire. Personne ne peut vous la raconter. Personne ne l'a jamais vue. Personne n'en est témoin. Par contre, nous, on ressuscite. Ça, oui. Et c'est bien comme ça qu'on sait que lui est ressuscité. Et tout ce que nous allons célébrer, c'est notre résurrection. C'est peut-être un peu surprenant ce que je vous dis, mais vous allez voir que c'est ce que dit la liturgie. Alors, notre ressuscité, notre Jésus ressuscité, il va s'assimiler l'humanité tout entière. Comme il s'est assimilé au péché de l'humanité tout entière, il va assimiler l'humanité tout entière dans sa vie. C'est ça le mystère pascal. Il a pris sur lui tout le péché du monde pour que tout d'un coup, nous puissions avoir part à toute la vie divine. Il va la sanctifier, cette humanité, la vivifier, l'illuminer, la saturer d'Esprit Saint, si vous voulez. Vous allez dégouliner de Saint-Esprit. Ça va passer par tous les pores de votre être. La fête de Pâques est donc, au sens exact, la célébration de notre régénération, de notre incorporation au corps du ressuscité. Et en plus, je suis super content. Je vous le dirai probablement demain matin dans l'homélie. Parce que justement, comme nous sommes en année B, c'est-à-dire année Saint-Marc, on va avoir cette nuit l'épisode des femmes au tombeau dans Saint-Marc. Et demain matin, comme tous les dimanches de Pâques, nous aurons les disciples au tombeau. Et justement, ce qui est génial, c'est que nous allons célébrer la résurrection du Christ avec des évangiles où on ne voit jamais le Christ ressuscité. Je trouve ça extraordinaire. Et je trouve ça absolument génial. À aucun moment, vous ne le verrez. Même pas se manifester. Et pourtant, nous allons ressusciter. Et toute la vigile de Pâques, tout ce que nous avons célébré cette nuit, c'est notre régénération. Marc, vous verrez les femmes s'enfuir du tombeau, craintives et tremblantes, après avoir eu le message de l'ange, c'est tout. Vous ne le verrez pas. Il vous faudra attendre lundi avec l'évangile de Matthieu pour que tout d'un coup, les femmes croisent Jésus sur la route. Et jusqu'à lundi, c'est, je trouve ça absolument extraordinaire. Parce que justement, on ne peut pas se mettre devant le mystère de la résurrection comme devant un écran de cinéma pour regarder le spectacle. C'est strictement impossible. Ou je meurs et je ressuscite avec le Christ. Et donc, lui devenant semblable, je pourrais le voir tel qu'il est. Ou je veux me placer en spectateur extérieur, mais à ce moment-là, je ne verrai rien. Et vous verrez, après la résurrection, des tas de gens sont là qui ne verront jamais le ressuscité. Et pourtant, il est là. Mais même pas, même avant l'ascension, quand il est à se manifester pendant les 40 jours, il y a des gens qui ne le verront jamais. Et pourtant, il n'est pas monté au ciel, il est là. Bon. Pour le voir, il faut soi-même être ressuscité. Donc en fait, toute la liturgie, elle est basée sur ça. Comment est-ce que moi, je vais ressusciter? Et tout ce qui va se passer... Cette nuit, nous allons ressusciter. Le Christ, il est ressuscité. C'est pas... on va le dire, on va le chanter sur tous les tons. Très bien. C'est pas mon problème, excusez-moi. Mon problème, c'est moi. Comment est-ce que je ressuscite? Excusez-moi de poser le problème de manière un peu crue. Bon, pour moi, le Christ, il est ressuscité depuis l'instant de sa mort. Alors moi, il a fallu que je digère. C'est pour ça que j'ai bien besoin du silence du samedi saint. Bon, on ne sort pas d'un vendredi saint comme ça. Bon, donc il faut le temps. Le temps de la mémoire, le temps de récapituler, le temps de reprendre tout ça, avec Marie. Et alors ce soir, au coucher du soleil, va commencer Nox Sancta, la nuit sainte. Une liturgie, là encore, comme la liturgie romaine n'en célèbre aucune autre pendant l'année. Alors, oubliez ce que vous pouvez peut-être penser ou connaître de la vigile pascale, parce que malheureusement, aujourd'hui, dans le missel actuel, on a l'impression d'une messe qu'on a truffée ou amplifiée. C'est pas ça du tout. En fait, nous commençons une vigile, au sens exact du terme, c'est-à-dire quelque chose qui doit durer toute la nuit et qui n'est pas simplement une messe. Il y a beaucoup d'autres choses qu'une messe. Et il y a des temps différents et qui même se célèbrent dans des lieux différents. Bon. Il y a trois grands temps et il y avait trois grands lieux. Et on bougeait d'un lieu à un autre. Bon. Nous, on va le vivre de manière beaucoup plus statique parce qu'on tout ce qu'on sent dans notre petit édifice, chapelle, etc. Mais il faut imaginer que ça doit se... Trois grands temps. D'abord, la liturgie de la lumière, le lucernaire. Donc cette transposition chrétienne du rite juif de l'allumage des lampes au commencement du jour saint. Ensuite, il y a la liturgie baptismale proprement dite, avec l'ultime catéchèse s'adressant aux catéchumènes. Puis on partait au baptistère et on baptisait les catéchumènes. Et puis ensuite, une fois qu'ils étaient baptisés, on revenait à l'église et là, on pouvait célébrer le banquet du royaume. Ces trois temps qui sont complètement distincts, qui ont leur logique propre, qui vous mènent de l'un à l'autre, mais qui doivent être distingués. Il faudrait presque faire des pauses entre les trois temps. Avoir le temps de comprendre qu'on a digéré un et qu'ensuite on va enchaîner le suivant. Aujourd'hui, tel qu'est organisé le missel, on traverse tout à une telle vitesse qu'on ne se rend pas compte. Surtout qu'en plus, on déplace la liturgie baptismale dans le missel de Paul VI après l'évangile. Bon, donc on ne sait plus où on est. Alors c'est pour ça que ce soir, je suis désolé, ne soyez pas surpris, je vais vous ramener à l'ancien dispositif. Je le prends sur moi. Mais je sais pourquoi je le fais. Et je sais où je veux vous mener. Alors, premier temps, ce que la liturgie romaine appelle Eucharistia Lucernaris, l'Eucharistie de la lumière. Alors ça, il n'y en a pas d'autre dans l'année, il n'y en a qu'une seule fois. L'Eucharistie de la lumière. Alors le rite vient de Jérusalem, justement. Célébré une seule fois dans la liturgie romaine pour la nuit de Pâques. Et donc il va se décomposer en sorte en deux moments. Alors d'abord, on est dehors. On est dehors. Dans la nuit. Il doit faire noir. Je suis désolé, sinon c'est pas valide. Noir et froid de préférence. Non, non, on commence dans la ténèbre. En fait, vous reprenez là où nous avons laissé vendredi soir. D'une certaine manière, le jour ne s'est pas levé aujourd'hui. D'une certaine manière, le jour ne s'est pas levé aujourd'hui. La liturgie s'est arrêtée alors que les premières étoiles s'allumaient dans le ciel vendredi soir. Elle reprend avec les étoiles dans le ciel cette nuit. Pour ça qu'avance une vigile pascale à 5 heures d'après-midi. Je ne sais pas ce qu'on célèbre. Mais en tout cas, le rite ne pourra pas avoir la puissance qu'il doit avoir. Et vous ne pourrez jamais ressentir physiquement ce que la liturgie voudrait que vous ressentiez. Vous ne pouvez le ressentir que s'il fait nuit, et Oui, l'expérience qu'on a tous connue quand on était petit. La peur du noir. Ce que c'est que d'être dans la ténèbre, sans lumière et sans chaleur. Et tout d'un coup, vous êtes dehors, dans la nuit, on allume, il y a le jaillissement du feu nouveau. Tout d'un coup, la ténèbre est transpercée par la lumière. Le froid est repoussé par la chaleur. Et normalement, vous devez prendre le temps de regarder ce feu longtemps et sans un mot. Et là, ce que j'appelle le sacré archaïque. Celui qui est inscrit dans les fibres de votre être depuis des millénaires, avant même et bien longtemps avant la révélation. Vous revivez cette émotion unique que nos ancêtres du fin fond de la préhistoire ont vécu le jour où ils ont su ce que c'était que le feu. Et que tout d'un coup, ils n'étaient plus des êtres sauvages, voués à la ténèbre ou au froid, mais qu'il y avait tout d'un coup une lumière et une chaleur. Et ça, cette expérience-là, il faut que vous la fassiez, mais corporellement, sans un mot. Ça parle à quelque chose qui est très, très, très loin au fond de vous. Je n'ai pas à l'expliquer normalement. C'est ce qu'on vit devant tout feu de cheminée. Et il faut que ça vous saisisse. Ce jaillissement du feu et de la chaleur. Et vous revivez la première parole de la Genèse. Dieu dit... Que lumière soit, et fut lumière. Au début, rappelez ce que dit le texte biblique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, et les ténèbres couvraient l'abîme. Et il y a cette Ruach Adonai qui tournoie sur les eaux. Dieu dit que lumière soit. Et fut lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépare la lumière. Vous devez revivre l'instant primordial de la création du monde. Revivre cette espèce de moment unique où tout d'un coup, la ténèbre et l'abîme cèdent la place à la lumière et à la vie. Bon. Et vous savez que Saint Jean, quand il commence son prologue d'évangile, quand il vous parle du Verbe qui est auprès de Dieu, il vous dit qu'il était la vie et la lumière. Et toute la tradition a toujours vu dans cette première parole du Dieu créateur, c'est pas la création de la lumière matérielle. Il faudra attendre le quatrième jour avec le soleil et la lune. Dieu dit que la lumière soit, c'est la lumière éternelle du Verbe. C'est pour ça que ce jour ne sera pas appelé jour premier, mais jour unique. Toute chose va être posée dans la lumière qui est le Verbe de vie lui-même et qui est la vie, qui illumine tout homme venant dans ce monde. Donc, tout à l'heure, dehors, dans la nuit, avec le feu qui jaillit, c'est ça que vous devez revivre. À travers la sensation de votre corps qui va réagir à la lumière et à la chaleur. Et vous allez vous sentir vivant avec la sensation de chaleur et de lumière sur votre visage. La liturgie chrétienne n'a jamais méprisé ce sacré archaïque, bien au contraire. Elle a toujours su qu'il parlait dans ce qu'il y avait de plus profond de l'homme. Et elle l'a toujours parfaitement assumé, sans aucun problème. Parce qu'elle sait que ça fait partie du vocabulaire fondamental de l'être humain. On n'a pas attendu les anthropologues. On le savait. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, nous sommes devenus très intellectuels. Et nous avons perdu souvent ce langage-là. On s'oblige à faire beaucoup de discours comme je suis en train de faire maintenant. C'est terrible. C'est terrible. Normalement, je n'ai pas besoin de parler. Donc, le feu va jaillir. On va prendre son temps. Je ne sais pas combien il va, enfin, je ne sais pas à quoi il ressemble, le vôtre, chez vous. Chez nous, à Rangueil, il fait 2 mètres de haut, je peux vous dire. Puis alors, il y a des buissons d'étincelles qui jaillissent dans le ciel. Vous avez la sensation de voir partir les étoiles quand Dieu les accroche dans le ciel. Oui, je sens que ça va être un peu déçu. Bon, non, c'est rien. Bon, d'accord. D'accord. Bon. Ok. Alors, là encore, imaginez, quand vous êtes au Moyen-Âge, dans ce monde sans électricité, toutes les lampes ont été éteintes depuis le soir du Jeudi Saint. On a réellement fait l'expérience de la ténèbre. Et donc, on va rallumer les lampes. C'est ça le rite du lucernaire. Donc, on va rallumer les lampes. Et celle qu'on allume en premier, c'est le cierge pascal. Lumen Christi, la lumière du Christ. Donc cette immense colonne, là encore, je ne sais pas, bon, les cierges pascals de l'Antiquité romaine, là encore, sont monumentaux. Et placés sur leur chandelier, ils sont vus de tous les points de l'Église. Mais c'est le Christ ressuscité. Il est la colonne de lumière qui va guider Israël dans son exode. C'est ça. Bon. Oui, bon, d'accord. On va faire du mystère en miniature. Non, je blague. Donc, vous allez allumer le cierge pascal avec ce feu qui a été béni. Vous savez, ensuite, on va tracer sur lui le Christ hier et aujourd'hui, à lui le temps et l'éternité, alpha et oméga. Parce qu'effectivement, lui, il rassemble désormais toute l'histoire, depuis la création jusqu'à la fin des temps. Les clous d'encens qui rappellent les plaies, mais qui sont désormais le foyer rayonnant de la charité divine. Et on va rallumer, normalement, aussi, on prenait des braises dans le feu qu'on mettait dans l'encensoir, qui lui aussi était froid depuis le soir du Jeudi Saint. Et on mettait l'encens sur les braises qui étaient prises au feu nouveau. Vous voyez, on devait vivre un mystère vraiment de renaissance. Tout reprenait vie. Tout reprenait vie dans cette nuit. Après, effectivement, un temps où on avait vraiment fait l'expérience de la ténèbre, du froid, de la mort. Alors le prêtre prend effectivement le grand cierge pascal, le Lumen Christi, et on part en procession vers l'église. Et cette procession, c'est le décalque exact de la procession de la croix du Vendredi Saint. 3 fois la croix a été proclamée le bois. Voici le bois. Et 3 fois, vous entendrez Lumen Christi, lumière. En fait, la croix de vendredi ou le cierge de cette nuit ne sont que les 2 faces du même mystère. Du Christ mort et ressuscité. Indissociablement les 2. Dans la croix, il accomplit. Dans le cierge, il manifeste. Mais c'est la même chose. Et au fur et à mesure, vous allez allumer vos cierges. Au fur et à mesure qu'on rentre dans l'église. Et donc, vous faites l'expérience de l'illumination. Vous devenez lumière. Vous devenez lumière. Et avec lui, ce Christ qui rentre, l'église qui doit être normalement dans les ténèbres, il ne doit pas y avoir de lumière, et vous qui devenez lumière au fur et à mesure et qui rentrez, quelque part, vous êtes en train de faire l'expérience de ce qu'a pu être pour Israël sa fuite dans la nuit guidée par la colonne de feu et du passage. Et une fois que tout le monde est bien rentré dans l'église, que tous les cierges sont allumés, qu'il n'y a toujours pas de lumière électrique, on met donc le cierge pascal sur son pied, on l'encense, et là, le diacre, ou moi ce soir, il n'y a pas de diacre, monte à Lambon, qui est juste à côté du cierge, et il chante cette pièce de poésie extraordinaire qui s'appelle « L'exultet », qu'exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. L'annonce de la joie, Pascal, la joie chrétienne, pour que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite, nous avait dit Jésus dans la nuit. Et on y est, dans cette joie, pleine, entière, parfaite et accomplie. Et vous ferez attention au texte, c'est une joie cosmique. La création tout entière est associée à la joie. Parce que la mort et résurrection du Christ, en déchargeant l'homme du pouvoir de Satan, décharge aussi la création qui a été soumise au pouvoir de Satan, non pas qu'elle l'ait voulu, mais à cause de la responsabilité de son gardien qui l'a perdue. Et donc la libération de l'homme est aussi pour la création une véritable libération. Et elle s'associe. Et donc dans cette nuit, c'est tout qui va chanter. La création tout entière qui chante avec nous. Et vous verrez dans le texte de l'exultète, vous la sentirez cette joie cosmique. Bon, c'est pour ça qu'entre parenthèses, l'exultète, ça ne se chante pas. Ça se brame. Ça doit partir de là et ça doit fracasser les portes de l'église et atteindre les montagnes aux deux côtés. Hein. Je ne sais pas où en seront mes soufflets ce soir, mais normalement, c'est ça. Ça doit vous prendre, mais ça doit projeter les choses. Et vous verrez que ce chant de l'exultète prend la forme d'une préface eucharistique, avec le fameux dialogue. Le Seigneur soit avec vous. Bon, c'est une véritable préface. Vous consacrez le cierge au même titre que vous consacrerez plus tard le pain et le vin. Ce cierge qui va brûler pendant tout le temps pascal, normalement il ne devrait jamais s'éteindre pendant la cinquantaine pascale. Bon, en fonction des cierges dont on dispose, on fait ce qu'on peut. Au moins le jour de Pâques, si ce n'est l'octave tout entière. Après, bon. Mais normalement, justement, cette lumière ne doit pas s'éteindre, puisque c'est la lumière éternelle du Christ ressuscité. Et que normalement, pendant le temps pascal, justement, il faudrait que je vous en parle demain, la perception du temps devrait disparaître. Nous ne devrions plus nous rendre compte de la succession des jours et des nuits. Nous devrions perdre le sens du temps. Oui, bah oui, je sais. La réalité se charge de nous ramener malheureusement. Bon. Et on chante justement le mystère de cette nuit qui a vu le salut du monde. Nuit où même la ténèbre illumine. Et alors, il y a le moment absolument hallucinant où on chante « Bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur ». C'est-à-dire même le péché devient motif d'action de grâce. C'est dire à quel point la victoire du Christ est totale. Même le péché devient motif d'action de grâce. Pourtant, Dieu sait s'il y a quelque chose qui est motif. Même, c'est dire sa défaite absolue. Si l'Église n'avait pas envisagé d'écrire un texte pareil, jamais vous n'oseriez vous dire une chose pareille. Et pourtant, on le dit. Et si possible, les gourmandises. Même le péché devient motif d'action de grâce dans cet immense retournement qu'est la mort-résurrection du Christ. Alors là, oui, il faut que j'avance. Je ne suis encore qu'à la lumière. Bon. Vous relirez tout. C'est tout. Vous relisez l'évangile de Jean. Toute la thématique de la lumière dans l'évangile joannique, vous y êtes. Et vous en faites l'expérience. Vous le vivez. Non. C'est vraiment le jaillissement de la lumière primordiale. une fois qu'on a bien vécu notre charisie, la lumière, on va commencer notre grande veillée catéchétique. On entre dans la partie proprement baptismale de la mi-pascale. La grande vigile à proprement parler. Vigile, c'est-à-dire l'office qui précède l'Eucharistie. Vous n'êtes pas dans l'Eucharistie, vous êtes dans autre chose. Bon. Vous savez que les mois ont l'habitude de célébrer des nuits de vigile, les veilles de dimanche et fêtes. Et autrefois, vous aviez des grandes vigiles dominicales dans l'Eucharistie, enfin, dans la liturgie romaine. Et les fidèles passaient un certain temps la nuit à l'église, effectivement, pour des lectures d'écriture, des catéchèses. Ce n'était pas la célébration de l'Eucharistie, ça précède, c'est autre chose. Donc il faut rendre à cette vigile sa dimension de vigile. Ce n'est pas la liturgie de la parole de la messe de Pâques. C'est autre chose. Alors, vous avez de la chance, on est passé de 12 leçons à 7. Vous avez de la chance, on a quand même légèrement allégé le programme. Avant, il y avait 12 lectures. Vous aviez 4 récits, 4 prophéties, 4 oracles, et ensuite 4 textes, c'était vraiment la préparation immédiate des néophytes. Dans les 4 récits, vous en retrouverez 3 cette nuit. C'est bien sûr le récit de la création. C'était évident qu'il fallait commencer par là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et vous allez entendre tout le récit des 7 jours. Complet. Alors, nous, on a fait sauter le déluge, qui était le 2e texte. On passe directement au 3e. Genèse 22. Le sacrifice d'Isaac. Et le 4e récit, qui sera le 3e pour nous, c'est Exode 14, 15, le passage de la mer. Et vous comprenez pourquoi. Vous y êtes. Alors, ce qui est merveilleux, que la liturgie romaine ait gardé ces textes. Parce que là, vous êtes dans une lecture, mais tellement juive, de l'histoire du monde. On ne peut pas faire mieux. Il existe un targoum, vous savez, ces commentaires araméens qui s'accrochent au texte biblique. Un targoum qui concerne justement Exode 12, le rituel de la Pâque que nous avons entendu le soir du Jeudi Saint. Et ce targoum d'Exode 12, c'est ce qu'on appelle le poème des 4 nuits. Il y a 4 nuits qui construisent l'histoire du monde. 4 nuits où Dieu construit l'histoire du monde. La première, c'est bien sûr la nuit de la création. Quand la ténèbre était sur l'abîme et que Dieu dit que la lumière soit. La deuxième nuit, c'est la ligature d'Isaac. La troisième nuit, c'est celle de la Pâque quand Israël sortit d'Égypte. Et la quatrième nuit, dans le poème juif, c'est celle où le monde accomplira sa fin, celle du passage du monde à venir, c'est-à-dire c'est la nuit du Messie. Eh bien, cette nuit, nous serons contemporains de ces 4 nuits. Et nous vivrons les 4 nuits. Quand nous entendrons proclamer le récit de la création, nous revivrons la création du monde. Nous y serons. Quand nous entendrons la ligature d'Isaac, nous y serons. Quand nous entendrons le passage de la mer, nous y serons. Et nous pourrons dire, comme les Juifs, j'y étais, j'ai franchi la mer. Et en même temps, nous allons voir que nous vivons la quatrième nuit et nous passons avec le Messie de ce monde-ci au monde à venir. Cette nuit, nous ne serons plus dans le temps. Nous serons dans l'éternité. C'est pour ça qu'il faut que la vigile pascale dure un peu. Ça dure 1h30. Pour avoir une sensation d'éternité, c'est un peu dur. Normalement, la liturgie devrait être si forte que nous en perdrions le sens du temps. On en oubliait sa montre. Et on est contemporain et on vit ces 4 nuits. C'est mon histoire et c'est l'histoire du monde. Cette nuit, nous devons faire mémoire de toute l'histoire du monde depuis sa naissance jusqu'à son accomplissement. Alors après viennent les oracles prophétiques. Bon, alors vous entendrez Isaïe 54 comme au temps de Noé. Isaïe 55, le Venite ad aquas, venez aux eaux, vous qui n'avez pas d'argent pour payer, pourquoi dépenser pour ce qui ne rassasie pas? Venez et buvez gratuitement à la source de la vie. Ça, c'est un oracle magnifique. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Ensuite, nous aurons Baruch, la source de la sagesse. Et notre liturgie actuelle a remplacé la prophétie d'Ézéchiel 37, les ossements desséchés, par Ézéchiel 36, je répandrai sur vous une eau pure. Je le regrette. Il y a une puissance tellement extraordinaire dans les ossements desséchés d'Ézéchiel. Prophétise, fils d'homme. Prophétise sur ces ossements. Viens, esprit des quatre vents. Et cette vision extraordinaire où le prophète voit les os se redresser, se recouvrir de tendons, et cette armée innombrable. Bon, alors, j'ai rien contre l'eau pure, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vois très bien par rapport à la liturgie baptismale. Mais quelque part, la dimension de résurrection de la chair qui est en jeu, malheureusement, a disparu. Et ça, c'est un de mes regrets. Le remplacement des ossements desséchés par l'eau pure. Il y avait une telle... C'était prodigieux d'entendre le surgissement des morts dans cette nuit. Bon, tant pis. Un jour, je ferai une lettre à la congrégation pour les rites avec tout ce qui m'énerve. Ils en font ce qu'ils voudront, mais bon. Et là, on part au baptistère. Alors, là encore, là où vous vous rendez compte que ce n'est pas une liturgie de la parole, c'est que chacune de ces lectures est suivie par un chant responsorial où le peuple s'associe et fait sien l'événement qui vient d'être raconté et est conclu par une oraison par le prêtre. Donc, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas la liturgie de la parole, c'est autre chose. Vous êtes vraiment dans l'ultime catéchèse. Et en fait, on est en train de dire au catéchumène ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'il va vivre dans la cuve baptismale. Et donc, à ce moment-là, on part au baptistère. Il faudrait qu'on parte tous en procession. Hein, et on ne reviendra pas du baptistère comme on est parti. Alors, normalement, vous êtes encore en chape noire. Moi, des fois, il m'arrive à Saint-Julien de célébrer encore en chape noire, à ce moment-là, simplement avec l'étole blanche. Et on a toujours le moins de lumière électrique possible. On n'est pas encore passé. On est dans le poème des nuits. On est encore... Mais cette nuit, elle est déjà lumineuse. Mais c'est encore la nuit. Il faut graduer les choses. Si on met tout dès le départ, on ne sait pas où on va. Bon, celle Christine fera ce qu'elle pourra, bien sûr. Là, la peau, je la vois terrorisée au fond. Il est en train de me faire un truc, là. Je me dois me faire une télécommande. Bip, flap. Bon. Donc, on part au baptistère. Mais oui, on nous a dit, venez vers l'eau. Ben, il faut qu'on y aille, l'eau. Et il faut qu'on y soit au bord de l'eau. Alors là encore, il faut de l'eau. Bon, on pourrait aller jusqu'au lac, oui, ça pourrait être génial. Tous en procession avec nos cierges, ce serait extraordinaire. Voilà. Donc, mais attends, on peut envisager une année, on peut préparer ça à l'avance et se le faire une année. Hein. Moi, je reviens, je suis partant. Hein. Bon, alors, on va au baptistère. Et là, on va se retrouver justement au bord de l'eau. Donc, il faut qu'on ait une bassine avec de l'eau suffisamment... Ben oui, je sais bien, nous n'avons plus les baptistères antiques avec la piscine dans laquelle on pouvait descendre et remonter, avec l'eau courante et tout. Et là, bon, on commence par chanter la litanie des saints. Ben justement, il n'y a plus de séparation entre l'église du ciel et de la terre. Donc, on y est, tous ensemble. Et ensuite, alors, je ne sais pas quelle formule vous employez ici. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser la formule que Gouze a repris dans son fascicule de Vigile Pascale, c'est-à-dire une grande prière de consécration de l'eau sous forme de préface eucharistique aussi. Ce qui fait que vous avez trois préfaces, la lumière, l'eau, le pain et le vin. Et l'eau baptismale, il faut renaître d'eau et d'esprit. En fait, c'est une prière consécratoire parce qu'il faut que la puissance de vie de l'Esprit-Saint descende dans l'eau pour qu'ensuite, quand on plongera des ans dans cette eau, il puisse réellement mourir et ressusciter. Alors, la prière de Gouze reprend, alors vous savez, on souffle sur l'eau en forme de croix, comme Dieu a soufflé sur les eaux de la création. Ensuite, les quatre fleuves du paradis, alors vous jetez de l'eau aux quatre coins, mais j'adore parce qu'on souffle, on patouille, on fait ta coup. Ben oui, ben... Et on plonge à un moment le cierge pascal dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, le Christ ressuscité descend dans l'eau et infuse dans l'eau la puissance de la résurrection. Et là, vous avez la réponse à la question de Nicodème. Maintenant, vous savez ce que c'est que de renaître d'en haut, de renaître depuis le commencement, de nouveau, d'eau et d'esprit. Ça y est, vous y êtes. Et bien, parce que l'eau remplie de la puissance de l'Esprit-Saint, Quand vous serez plongé dedans, ben, elle va faire son œuvre. C'est une véritable matrice. Vous allez renaître. Et vous allez renaître éternel. C'est pour ça que lorsque vous ressortez... Alors, normalement, ce soir, bon, je ne vais pas vous rebaptiser, on ne rebaptise pas. Mais tous les ans, la vigile pascale, on revit la grâce de son baptême, on se la réapproprie. Donc je vais vous demander de nouveau de faire la renonciation, de nouveau de faire la profession de foi baptismale, et à la fin, je vais vous asperger copieusement. Parce qu'il faut justement que l'eau baptismale recoule sur votre tête et que vous rejaillissiez, vous aussi, de l'abîme. Demande aux sœurs de Lourdes, la première. Il faut que vous passiez sous la vague de l'abîme. Il faut que vous... Mais, non, mais vous comprenez, j'ai l'air comme ça, mais à force d'affaiblir la réalité matérielle de la liturgie, on ne sait plus, et vous êtes obligé de multiplier des discours à n'en plus finir pour expliquer. Et on n'y est plus. Bon, on ressort trempé. Et là, vous êtes vraiment ressuscité. Vous êtes réellement ressuscité. Là, vous allez laisser tomber votre chape noire. Vous allez être en blanc. Et vous êtes, comme dit la liturgie, Anni Novelli, vous êtes les agneaux nouveau-nés de la Pâque. C'est superbe. Alors vous êtes un merveilleux petit troupeau d'agneaux qui remontait de la fontaine baptismale, comme le Christ. Bon. Et là, on va re-rentrer dans l'église, on revient du baptistère, et là, on chante le Gloria, qui est la grande hymne latine qui achève l'office des vigiles. Alors là, vous lancez les cloches, vous lancez toutes les lumières que vous voulez, vous lancez absolument tout, vous lancez votre chape, vous lancez tout. Non, mais justement, le manteau de ténèbres qui nous enveloppait, le voile de deuil qui enveloppait toutes les nations, et vous êtes immaculé. Alors les laïcs, c'est des vêtements blancs, c'est le moment de les mettre. Hein. Ce soir, vous êtes en blanc. Hein. Et là, vous pouvez commencer la célébration de l'Eucharistie de Pâques, le banquet de l'agneau. Vous y êtes. Et si nous avons célébré l'Eucharistie par anticipation de la mort le soir du Jeudi Saint, celle-ci, nous la célébrons par anticipation du banquet des noces éternelles. C'est le banquet des noces éternelles. Et nous sommes en vêtements blancs devant le trône et palmes à la main et nous chantons la victoire. Oui. Tout ce que vous décrit l'Apocalypse, vous l'êtes cette nuit, réellement. Alors, sous la forme des signes et des sacrements, parce que nous n'avons pas d'autre langage dans le monde d'ici-bas, mais un jour, ça sera en vérité en plein et accompli. Mais nous le vivons encore sous la forme, justement, du sacrement, puisque nous sommes encore collés à cette terre. Mais les signes réalisant et signifiant pleinement ce qu'ils disent. Vous aurez la lettre aux Romains qui vous donne le sens du baptême, le grand Alléluia Pascal qui va résonner enfin, la joie de Pâques est revenue sur la terre, l'évangile des femmes au tombeau, tout ce qu'on peut arriver à vous dire de la résurrection, c'est-à-dire, en fait pas grand-chose, mais peu importe, vous l'êtes ressuscité. Vous venez de le vivre, le mystère. Vous avez revécu la création du monde, vous avez été offert avec Isaac, vous avez passé la mer avec les Hébreux, vous avez coulé au fond de l'abîme et vous êtes remonté de l'abîme dans la cuve baptismale avec le Christ, vous l'êtes. Il n'y a pas besoin de vous montrer des choses. C'est plus la peine. Vous y êtes. Et vous allez célébrer. Alors, troisième préface consécratoire, ce coup-ci sur le pain et le vin. Et vous communiez, et cette communion, eh bien, elle parachève votre incorporation complète au Christ ressuscité. Moi en vous et vous en moi. 4 heures d'après-midi, il faudrait que je me calme. Voilà. Bon. Mais voyez, il faut rendre à cet office de cette nuit cette espèce de dimension prodigieuse qui est la sienne. Et malheureusement, le peuple chrétien ne se l'est pas encore réapproprié, les trois quarts du temps. Il ne saisit pas à quel point la force des rites, des signes, de ce qu'on célèbre et de ce qui se vit dans cette nuit. Mais qui est le pivot de toute l'année liturgique, enfin de tout ce qu'on essaye de vivre. de tout le sens de notre existence chrétienne. Comment être complètement absorbé par le Christ ressuscité.